Bonjour. Donc, j'aimerais quand même présenter le travail un petit peu dans le cadre dans lequel il s'est fait d'abord. J'ai travaillé donc 2 ans en tant que professeur associé avec l'INRP dans un projet sur l'éducation au développement durable et au sein d'une équipe qui travaillait sur le climat et l'énergie, et notamment autour de la question du réchauffement climatique. Et donc, on s'était emparé de la question autour de cette notion de climat et énergie. Finalement, on avait attrapé le problème à travers finalement 2 questions, à savoir quelles sont les mesures d'atténuation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut atténuer à l'heure actuelle le réchauffement climatique en marche, puisqu'on sait encore plus avec le réchauffement, enfin avec le rapport du GIEC très récent que c'est quelque chose d'effectif et en cours sur lequel on ne peut pas revenir. Et en même temps, comment est-ce qu'on doit et comment est-ce qu'on peut en tout cas aussi s'adapter à un éventuel réchauffement climatique. Et donc la question nous était posée et le travail finalement des enseignants associés qui était interdisciplinaire. J'aimerais aussi essayer de montrer la présentation de ce travail, donc qui a été fait dans un cadre de cours de géographie de quatrième, mais en même temps, je pense qu'il peut avoir une dimension. Il doit, à mon avis, avoir une dimension interdisciplinaire parce que je pense qu'on peut faire appel à des physiciens, à des enseignants de sciences et vie de la Terre pour attraper des questions. Et bien entendu, là, c'est un regard de géographe davantage que celui du prof de sciences et vie de la Terre qui s'adressera peut-être plutôt à la biodiversité, aux biotopes, etc. Moi, c'est plutôt la logique de l'aménagement du territoire qui m'intéressait. Moi, je me suis emparé de la question et notamment, je me suis posé la question concernant les énergies renouvelables. Alors, la séquence a été un petit peu un concours de circonstances assez heureux finalement parce que je cherchais une énergie. Alors j'avais un collègue qui travaillait sur la biomasse et les biocarburants, notamment au Brésil, etc. Et puis je suis tombé sur l'éolien, que je connaissais pas du tout, c'était un domaine que je ne maîtrisais pas. Et puis au fur et à mesure de mes recherches, du butinage sur internet, etc., finalement je suis tombé sur un nombre de ressources relativement incroyables sur la question de l'éolien, et notamment des outils géomatiques, alors à différents niveaux. Alors ici je vous en présenterai 3, enfin si j'ai le temps de pouvoir les présenter tous les 3, enfin je vais essayer de faire vite. Je vous présenterai donc géolecture. Alors j'étais pas ce matin pour les typologies des SIG, mais je suppose que ça serait un SIG de type 1 si j'ai bien compris. Je vous présenterai un SIG en ligne qui est mis en place par la DIREN du Languedoc-Roussillon. Pourquoi le Languedoc-Roussillon ? Parce que c'est la première région éolienne de France. C'est notamment eux ont développé énormément de choses sur l'implantation et l'impact des éoliennes. Il est quand même à noter, je pense que c'est très intéressant aussi pour vous d'un point de vue des ressources, que les DIREN, sous la houlette du ministère, mettent en place énormément d'outils SIG. Je change par exemple aux outils cartographiques qui ont été mis en place sur le littoral méditerranéen. Il y a énormément de choses et dans beaucoup de DIREN maintenant, on fait appel à ces outils que sont les SIG pour présenter un certain nombre de ressources. Notamment, par exemple, la DIREN du Languedoc-Roussillon présente non seulement, vous allez voir, un atlas des implantations éoliennes, mais elle propose aussi un atlas des vents, un atlas paysager. On propose aussi des atlas SIG sur les ressources en eau, sur la qualité de l'air, sur le bruit, donc sur tout un tas de thématiques liées au développement durable. Et là, il y a énormément de ressources et je pense que si on cherche, il y en a j'en ai vu par exemple sur la Champagne-Ardenne, il y en a sur l'Aude, enfin, en butinant, on trouvera pas mal de choses dans les directions régionales de l'environnement. Donc, rapidement, il me semble quand même aussi important de retracer tout le parcours que les élèves font dans le cadre de la séquence, parce que sinon on voit pas pourquoi est-ce que j'aboutis jusqu'à l'éolien dans le cadre du Cap d'Agde de Languedoc-Roussillon. Alors, très rapidement, la séquence, bon, elle dure à peu près 5, 6 heures, 7 heures avec évaluation, enfin tout dépend des élèves. Ça se place dans une classe de 4e, c'est dans la salle multimédia la plupart du temps. Les élèves travaillent essentiellement en autonomie, avec des moments de mise en commun, bien entendu, ou éventuellement des possibilités, à mon avis, de pouvoir faire aussi, avec le vidéoprojecteur, des cours dialogués sans aucun problème. Alors, le premier point de départ, pour moi, ça a été quand même de faire comprendre très rapidement aux élèves, finalement, pourquoi la Terre se réchauffe. Et c'est là où, par exemple, un prof de physique me serait éventuellement très utile, parce que, pour aborder les questions de l'effet de serre, la hausse des températures. Donc là, les élèves travaillent sur un graphique sur la croissance démographique, sur la croissance des émissions de dioxyde de carbone, sur la hausse des températures, sur les énergies utilisées, l'effet de serre. En quatrième, c'est hyper intéressant parce qu'il y a tout un retour sur la révolution industrielle, avec la date de 1860 qui apparaît à chaque fois comme une rupture, et pour les énergies fossiles utilisées, et pour l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone, et pour la croissance de la population. Donc c'est assez intéressant de faire le parallèle aussi historique, et de faire un petit rappel de ce qu'on a vu en histoire sur la révolution industrielle. Et puis on aboutit à une sorte de synthèse que les élèves doivent construire sur comment est-ce que ça marche et pourquoi est-ce que le climat se réchauffe. Le deuxième travail donc qui est proposé, la deuxième séance qui est proposée aux élèves, c'est de travailler à partir je vais voir si j'ai un problème de tête de chargement. C'est de travailler à partir de 2 minutes. Je me relogue au Wi-Fi. si on veut bien, c'est de travailler à partir du logiciel, enfin du jeu plutôt, Ecoville, qui avait été mis en place par l'ADEME dans le cadre de l'exposition Climax, qui avait eu lieu en 2005, justement sur le réchauffement climatique. Donc c'est un logiciel qui est toujours en ligne, qui est accessible, qui est gratuit, il n'y a aucun problème pour le télécharger. Il est pas lourd du tout, aux administrateurs réseau, il fonctionne très très bien, donc vous pouvez le télécharger sur les postes, ou jouer en ligne. Bon, l'idée est très simple, ça reprend en fait l'idée de SimCity. On doit aménager une ville avec des objectifs de développement durable, donc à savoir qu'en fait on choisit une carte, on choisit un objectif. Alors l'idéal en cours, pour que ça tienne dans l'heure, c'est de choisir une ville de 10 000 habitants. Et puis les élèves sont ensuite amenés à aménager cette ville, donc construire des routes, construire des bâtiments. Alors avec un certain nombre de contraintes, c'est qu'il ne faut pas qu'ils dépassent un stade de pollution. Alors on aurait pu d'ailleurs, le terme de pollution est un peu mal approprié parce qu'il est utilisé à tort et à travers. En fait, c'est les émissions d'oxyde de carbone qui sont concernées ici. Donc il ne faut pas qu'ils émettent, par rapport à la population, un taux de dioxyde de carbone. Alors ils doivent au départ construire, ils n'ont pas bien entendu accès à l'éolien. Alors il faut qu'ils fassent des campagnes de recherche scientifique, des campagnes de prévention, des campagnes de publicité. Ça leur coûte bien entendu de l'argent, et ils réalisent leur espace. L'idée, c'est qu'à la fin du travail, il y a d'abord une reprise, c'est-à-dire qu'ils font un croquis de l'espace urbain qu'ils ont construit dans Ecoville, et puis il y a un travail sur comment est-ce que vous avez fait, alors soit pour gagner, soit pour perdre, parce qu'on en a qui perdent, on en a qui gagnent. Le principe, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai gagné, pourquoi est-ce que j'ai perdu, et après en cours aussi, c'est de reprendre les croquis pour essayer de faire émerger une réflexion sur l'aménagement du territoire, parce que la plupart du temps, ils ont construit leur espace de manière anarchique, ils ont posé la décharge à côté du lotissement pavillonnaire, ils vous ont mis un champ de 1000 éoliennes au milieu des habitations, et il n'y a aucune réflexion préalable des élèves à l'aménagement du territoire. Et donc l'idée, c'est de réfléchir à partir des croquis, et donc en faisant une verbalisation avec eux sur les différents croquis, d'essayer de faire apparaître est-ce que le champ d'éoliennes, ça tient ici, est-ce que votre décharge, vous pensez que dans votre lotissement pavillonnaire il va y avoir du monde, et donc on commence à réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'aménager. Et l'objectif finalement de Ecoville, c'est d'arriver avec eux à une définition de ce qu'est aménager un territoire. Et donc c'est aménager un territoire en fonction politiquement, en fonction aussi de besoins spécifiques. Or ici, on a un besoin particulier, c'est le développement durable, puisque là, on est quand même dans l'implantation d'éoliennes, de barrages, d'énergie solaire, etc. Et puis ensuite, la troisième perspective, c'est de travailler justement sur une étude de cas concrète d'aménagement d'un territoire. Alors là a été choisi le territoire du Cap d'Agde, d'abord parce qu'on est dans la région du Languedoc-Roussillon, moi qui m'intéressait pour l'éolien. Deuxièmement, c'est là où il y avait les concours de circonstances. Je vais sortir de là deux minutes. C'est parce qu'on a il y a un outil qui a été mis en place par l'Académie de Créteil, qui est aussi gratuit, qui est en ligne, que vous pouvez télécharger, qui s'installe très facilement aussi sur les réseaux d'établissement. Il est un peu lourd à télécharger et installer, mais enfin une fois que c'est fait, ça fonctionne. Donc qui est Géolecture. Alors je ne sais pas dans quelle catégorie des SIG on peut le placer, c'est un visualiseur SIG. Alors il a l'avantage en collège, à mon avis, d'être très simple d'utilisation, en tout cas pour ce qui est de l'étude de cas du Cap d'Agde, puisqu'il y a aussi Chamonix, il y a aussi Béthune, enfin il y a quatre études de cas qui sont proposées, il y a d'ailleurs des ressources pédagogiques qui sont fournies avec. L'intérêt pour le Cap d'Agde, c'est qu'il n'y a que trois couches de lecture, donc c'est relativement simple. Parce que là, voilà. Et le gros intérêt de ce logiciel, c'est qu'on peut afficher deux vues différentes. Alors, vous voyez les trois couches, vous avez la carte scannée ou un 100 millième, vous avez la photographie aérienne de 63 et vous avez une photographie orthopo de 2001. Et l'intérêt de ce logiciel, c'est non seulement en fait ce que vous retrouvez dans beaucoup de manuels. Moi, j'ai souvenir d'un manuel Belin en 99 où j'avais déjà la photo de 63 et la photographie d'aujourd'hui du Cap d'Agde pour aborder, avec la carte topo d'ailleurs, pour aborder l'aménagement du territoire. Le gros intérêt ici, c'est que non seulement, alors comme dans beaucoup de SIG, vous pouvez faire des mesures, vous pouvez bien entendu faire des zooms sans avoir de déformation au niveau des paysages, mais l'intérêt aussi, c'est que par exemple, les deux fenêtres qui sont ouvertes, elles sont ce qu'on appelle synchronisées. C'est-à-dire que quand je me déplace sur un espace, et c'est tout l'intérêt du géoréférencement qui a dû vous être présenté ce matin, c'est que quand je me déplace dans un espace en 2003, je me déplace aussi dans mon espace en 63, par exemple. Et c'est assez intéressant, par exemple, de faire comprendre rapidement aux élèves. Alors non seulement de voir, bien entendu, d'abord, en quatrième, on a commencé par travailler sur une des photographies, et puis ensuite sur l'autre, et puis ensuite la mise en relation. Et l'intérêt, c'est par exemple, est-ce que ici on est sur une plage qui est celle que l'on a là, ce qu'on peut penser au premier abord, et en fait on va s'apercevoir qu'on est dans un territoire qui est complètement artificialisé, puisque la plage existante naturelle au départ n'existe plus, puisqu'elle était à la place où vous retrouvez Aqualand et puis toute la marina et le port du Cap, et que finalement la plage que vous avez aujourd'hui, c'est une plage qui est complètement artificielle et qui n'existait pas à l'époque. Et finalement on a avancé, et donc on peut mesurer tout l'aménagement de l'espace, à la fois l'occupation du sol qu'il y avait en 63, l'occupation du sol aujourd'hui, et on voit finalement comment est-ce qu'on a aménagé un littoral finalement quasi naturel et qui est devenu un littoral complètement artificialisé à des fins particulières, cette fois-ci qui étaient des fins touristiques. En attendant, on peut aussi faire prendre conscience aux élèves à l'époque que est-ce que la logique du développement durable est présente quand on a fait l'aménagement du Cap d'Agde dans les années 60-70. Pas véritablement, même si certains diront que on était déjà à l'avant-garde avec un centre piétonnier, les voitures ne rentrent pas, etc. Enfin bon, en attendant, on peut maintenant voir comment est-ce que ce territoire-là, aujourd'hui aménagé à des fins touristiques, qui répondait à un besoin, à une demande de l'époque de loisirs, de tourisme, de pouvoir loger des populations, etc. dans les années 70-80, qui a été réalisé, hein, qui a abouti. Comment est-ce que aujourd'hui ce territoire peut être à nouveau aménagé, et cette fois-ci dans le cadre de la logique du développement durable. Et c'est là que l'éolien rentre en jeu, parce que il y avait, alors je dis bien il y avait, parce qu'apparemment le projet sous l'impact des lobbies touristiques a été plus ou moins abandonné, si j'ai bien compris. Mais il y a un projet éolien, il y avait un projet éolien offshore. Sur la zone du Cap d'Agde. Et l'idée, en fait, c'était de voir comment est-ce que on aménage aujourd'hui un territoire dans cette logique de développement durable, comment est-ce qu'on implante des éoliennes, et que finalement, implanter une éolienne, c'est pas aussi simple que ça, et qu'il y a énormément de logiques qui sont mises en place, et finalement, c'est toutes les logiques de l'aménagement du territoire qui sont présentes. Parce que finalement, il y a tout un tas d'études d'impact, qui sont d'ailleurs obligatoires juridiquement maintenant pour les implantations d'éoliennes. Donc il y a tout un cahier des charges extrêmement strict, et ce cahier des charges permet de vraiment percevoir les logiques de cette implantation, les contraintes de la plantation de l'éolien, et c'est pas si simple de dire oui on va faire de l'énergie renouvelable, faut-il encore mesurer tout ce que ça peut comporter. Et en même temps, il y a toutes les logiques d'acteurs, parce que bien entendu le touriste, l'écologiste, le patron de la boîte de nuit ou du bar sur la plage, ils n'ont pas forcément la même position sur la vision qu'ils ont de l'éolienne. Et c'est aussi intéressant de voir que là aussi rentre en jeu des logiques d'acteurs. Et ce qui quand même a fait abandonner le projet, c'est le lobby touristique, justement, qui se bat depuis 25 ans ou 30 ans sur une image vantée de la région. Et l'éolien, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que la vision symbolique que vous êtes dans une région vantée. Et forcément, le touriste, voyant l'éolienne, se dit, attends, non, il y a du vent sur la plage, je vais peut-être pas venir là. Donc il y a quand même ces stratégies qui sont mises en place. Alors là, c'est intéressant parce que justement, la DIREN a mis en place tout un tas d'outils qui sont là aussi accessibles en ligne et gratuits. Alors vous avez, là j'ai extrait quelques cartes, mais vous avez, bon d'abord une carte des vents, hein, il faut savoir que par exemple pour avoir des subventions publiques, il faut que vous ayez quand même un vent relativement fort au sol, à partir de 6 mètres par seconde, or là on est dans une région, si on regarde au niveau du littoral, si on regarde la légende, on est sur des vents moyens entre 6, 7, voire 8 mètres par seconde, donc on est dans une région déjà propice à l'implantation de l'éolien qui va bénéficier éventuellement de subventions, ce qui explique par exemple dans la région, on en est très peu, hein, notamment d'éoliennes. Et puis ensuite, vous avez tout un tas d'impacts qui ont été mis en valeur sur un certain nombre de cartes, et ils en ont fait récemment, parce que à l'époque où je travaillais avec les élèves, ça n'existait pas, mais ils ont fait récemment. Ils vont me redemander de me connecter. Donc très récemment, ils ont sorti. Alors là, ils en ont sorti plusieurs de ce type de SIG. Ils ont sorti donc un atlas des sensibilités à l'implantation d'éoliennes. Donc qui permet d'avoir un certain nombre d'informations sur la région qui nous intéresse. On va se mettre au 1/100 000e. Donc ça, c'est en ligne, hein, y a absolument aucun problème. C'est parfois un peu long à charger, si la carte veut bien venir. Donc si vous regardez au niveau de la légende, vous avez plusieurs données en fait. Vous avez d'abord des couches très traditionnelles sur... Je vais me remettre au 1/100 000e si possible. Voilà. Vous avez donc des données concernant le territoire, donc soit la carte scannée avec les villes de plus de 11 000 habitants, le territoire environnemental, des limites de poste là, au niveau du SCOT, etc. Vous avez ensuite des données sur l'occupation du sol. Donc, par exemple, on peut revenir sur ce qu'on a déjà vu. Est-ce qu'on est dans un territoire artificialisé? Et on va s'apercevoir que, effectivement, notre territoire est artificiel complètement. Donc, a été complètement artificiel. Alors, territoire artificialisé, sous-entendu, territoire urbanisé, aménagé par l'homme. Enfin, c'est à peu près la définition qu'ils ont. On peut, bien entendu, placer les routes, autoroutes, etc. Les servitudes aéronautiques, parce qu'il peut y en avoir pour ce qui est de l'éolien, hein. S'il y a des servitudes aéronautiques, vous pouvez pas placer forcément une éolienne. Alors, à savoir quand même que ce petit SIG, il a été fait pour l'implantation d'éoliennes sur Terre. Ce qui veut dire qu'en fait, on manque de données pour l'éolien en mer, parce que les contraintes de l'éolien en mer sont encore différentes que l'éolien sur terre. Et par contre, ils ont toute une batterie à la DIREN de cartes sur le projet éolien offshore que je vous montrerai, notamment par exemple pour les cétacés, je vous en parlais rapidement. Vous avez aussi donc la possibilité d'avoir tout ce qui est le milieu naturel. Alors là, je pensais notamment aux preuves de SVT, parce que il y a toutes les réserves Natura 2000. Alors en plus, c'est les projets européens pour la protection des oiseaux. Vous avez tout ce qui est les zones de naturelles, alors soit type 1, soit type 2, qu'on peut voir apparaître. Et par exemple, on peut faire apparaître qu'on a une réserve naturelle très forte qui est à proximité du Cap, puisque là, on est dans le prolongement presque de la Camargue, finalement. Vous verrez aussi que on a notamment des zones de protection Natura 2000 qui se rejoignent la réseau. Alors là, on la voit pas, ça me plante. Je vais essayer de remettre celle-là. Alors vous pouvez, comme dans tous les SIG, afficher les couches, les superposer, etc. Donc ensuite, vous avez, dernier élément, vous avez tout ce qui concerne la vie faune, donc pour les nidifications d'oiseaux avec les trois catégories, c'est-à-dire les listes rouges, et grosso modo les espèces menacées, rares, qui ont besoin d'être protégées, et plus on va vers le jaune, et moins il y a besoin de protection, et on s'aperçoit qu'on est aussi dans une région, notamment orange, où on a un certain nombre de zones de nidification, où il faut faire attention, et on sait notamment par certaines études qu'il y a des risques de collision, et de mortalité, de surmortalité chez un certain nombre d'espèces à cause de l'éolien. D'accord? Alors, parfois faible, mais sur certaines espèces, ça peut être relativement fort et ça peut être dangereux. Ça peut aussi dévier notamment les axes migratoires. Et on est dans une zone, là, qui est d'ailleurs en plus réputée sur le plan européen, d'axes migratoires d'un certain nombre d'oiseaux, notamment tout ce qui est flamand, l'aridée, etc. Et là aussi, on sait que les trajets sont relativement fixes, alors ils varient en fonction du temps, mais que l'éolien peut éventuellement amener ces oiseaux à éventuellement changer leur axe migratoire. Et puis la cinquième couche, c'est les sites classés, les sites inscrits. Alors à savoir que dans les sites classés, à part sur Agde, hein, sur la ville d'Agde, il n'y en a pas. Par contre, on a quand même dans la région qui est directement concernée par le projet, pour ceux qui connaissent, au large du Cap, il y a le Fort Brescou. Et le Fort Brescou est un site inscrit. Alors c'est pas un site classé patrimoine, mais c'est un site inscrit. Ça veut dire que c'est quand même un site qui, en tout cas sur son pourtour, est protégé et qui est digne d'intérêt paysager. Et là aussi, implanter de l'éolien à proximité du Fort Brescou, ben ça pose aussi des problèmes de protection du paysage, puisque l'éolien, c'est aussi ça, c'est aussi un changement profond du paysage. Et si on regarde, alors après vous trouvez pas mal d'autres éléments, c'est-à-dire autres que dans le SIG. Bon là c'est des cartes qui sont, parce que dans le SIG, je vous ai pas montré, c'est très intéressant pour les élèves notamment. Vous pouvez à chaque carte produite, vous pouvez extraire sous forme de document PDF. La carte que vous avez construite. Donc à chaque fois, quelque part, l'élève peut garder, s'il le souhaite, une trace de la carte, de la première couche qu'il a mis, la deuxième couche qu'il a mis, la troisième couche, et il peut à chaque fois produire une carte, éventuellement. Alors là, si on retrouve d'autres cartes, par exemple sur l'impact paysager, alors après, je pense qu'il faut compléter, c'est toujours pareil, le SIG en lui-même, à mon avis, ne permet pas toujours la réflexion, ça peut être intéressant parfois aussi d'élargir, de trouver d'autres documents, tout à l'heure on voyait des photographies notamment, et ça peut être intéressant de voir, par exemple, quel est l'impact visuel d'une éolienne, mais ça peut être intéressant de percevoir aussi. Alors là, ça avait été des photomontages qui ont été faits dans le cadre du projet. Voilà la vue actuelle. Donc là, c'est le fameux Fort Brescou dont on parlait tout à l'heure. Et voilà de la plage de Rochelongue. Voilà qu'est-ce que verraient les touristes. Voilà les éoliennes, de quelle manière ils les verraient. Et on comprend bien l'impact par rapport au Fort Brescou, par exemple, que peut avoir l'implantation d'éoliennes offshore. Alors, à savoir aussi qu'il y a un dernier impact assez intéressant, mais qui est pas montré, parce que l'atlas est vraiment centré sur la terre. Alors que, en mer, on a un autre problème notoire, c'est les cétacés. Or, on en est dans une zone où les cétacés, il y en a, mais ils sont, relativement loin au large. Le souci qu'on a, c'est que quand on relie l'éolienne au réseau terrestre électrique, on fait passer des câbles. Or, on sait que les cétacés sont relativement sensibles à tout ce qui peut être ondes électromagnétiques, qui sont dégagées par ces câbles. Et donc, la question qui peut être posée... Alors, en fait, on a peu d'études sur l'implantation d'éoliennes offshore. Hein. Les Danois sont relativement bien avancés, mais finalement, il y a peu de projets et il y a peu d'études d'impact. Et donc, la question qui est quand même posée, c'est est-ce que le fait d'installer des câbles électriques sous-marins qui produisent des ondes, est-ce que ça va pas faire en sorte que les cétacés se rapprochent du territoire et du coup que les plages deviennent des zones d'échouage. Donc voilà, c'est une question qui est posée. En tout cas, c'est bien une contrainte qu'il faut être à même de prendre en compte. On voit aussi, par exemple, d'un point de vue marin, ce qu'on voyait pas tout à l'heure sur le territoire, mais on voit d'un point de vue marin qu'on est aussi dans des zones d'axes migratoires via l'espace maritime. Et là aussi, l'implantation de l'éolienne, on a vu, peut avoir éventuellement le risque de dévier ces axes migratoires traditionnels. Donc, un certain nombre, si vous voulez, d'outils là qui sont utiliser. Alors, je crois comment l'utiliser avec les élèves. En quatrième, je pense que c'est relativement simple. Je pense que ça se prête beaucoup au jeu de rôle, c'est-à-dire éventuellement d'être capable de, dans le cadre notamment par exemple d'une argumentation, d'être capable de demander par exemple à des élèves de jouer des groupes d'acteurs particuliers et éventuellement de produire une ou deux cartes qui viseraient à défendre la thèse de vous êtes un écologiste protecteur des oiseaux, est-ce que l'implantation d'éoliens menace éventuellement votre intérêt à vous politique, vous êtes un tenant d'un magasin de touristes sur la plage de Rochelongue, comment est-ce que vous percevez l'implantation de l'éolienne, vous êtes au contraire fervent défenseur de l'éolien, et à ce moment-là on peut faire un jeu d'acteurs qui vise à argumenter autour du projet et à essayer de prendre en compte justement ces dimensions d'aménagement et logique d'aménagement du territoire. Encore une fois, je pense qu'avec des quatrièmes en tout cas, il faut véritablement travailler presque couche par couche plutôt que de croiser, de multiplier toutes les couches en même temps, parce que ça devient compliqué. À mon avis, au niveau lycée, on doit pouvoir complexifier et multiplier justement les différentes couches. Et puis enfin, dernier SIG, alors là c'est plutôt un élargissement que je propose aux élèves, c'est de faire un petit tour du monde via Google Earth des éoliennes. J'ai eu pas mal de chance aussi là-dessus, parce que imaginez-vous essayer de repérer sur Google Earth tous les parcs éoliens mondiaux, aller trouver une éolienne dans le monde, c'est pas forcément évident. Alors il y a, à part quand vous connaissez les grands parcs de Palm Springs aux États-Unis, vous avez tous ces images des grandes rues désertiques, etc., et puis les grandes éoliennes américaines, les grands parcs on les connaît. Après, en trouver un certain nombre un peu partout dans le monde, c'est plus difficile. Alors j'ai eu de la chance parce que l'université de Berkeley avait fait le travail à ma place. Et donc, y a un universitaire qui a repéré et qui a localisé avec les différents points dans Google Maps les différents grands parcs éoliens du monde. Alors c'est assez intéressant parce que ça permet d'ouvrir d'autres parcs éoliens et d'autres justement pour réinsister sur les contraintes. Alors par exemple, c'est le projet qui a été fait de parc éolien, le Cap Wind Project. Je vais vous y emmener rapidement s'il veut bien. Et là, justement, on va retrouver le système qu'on voyait tout à l'heure de couches de calque, qui est assez intéressant. Alors, c'est un projet en cours aux États-Unis. C'est un projet d'éolien offshore. Alors, ça rejoint bien, en plus, le... Alors là, je ne suis pas foulé, hein, j'ai tout trouvé sur Internet, hein, c'était déjà fait. Donc, c'est pas moi qui ai construit les systèmes de calque. Mais enfin, ça fonctionne comme ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est simplement des calques colorés qui ont été implantés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on veut implanter des éoliennes dans cet espace. D'accord. Où est-ce que je vais les implanter? Au départ, on peut dire, les élèves peuvent dire, bon, on les implante où on veut. Il y a de la place, il y a l'espace maritime, etc. En fait, c'est beaucoup plus contraignant que ça. Si on regarde, par exemple, le trafic régulier des bateaux, on s'aperçoit que voilà, déjà, on a un tracé régulier de bateaux. On peut pas implanter nos éoliennes sur ce tracé-là. Si on regarde les limites. Des eaux territoriales notamment. On est limité, point de vue sécurité, etc. Il faut qu'on les implante au-delà de cette limite. Donc ça commence déjà à sérieusement réduire notre espace. Si on regarde ensuite les trafics réguliers qui joignent les différentes îles, des ferries réguliers au niveau des migrations pendulaires, on s'aperçoit que là aussi, notre espace d'implantation se réduit très sérieusement. Si en plus après vous pensez aux contraintes aéronautiques, c'est-à-dire toutes les servitudes aéronautiques, vous avez encore d'autres tracés qui vont encore une fois contraindre votre espace. Donc finalement, quand vous regardez tout ça, il vous reste un endroit pour implanter vos éoliennes, c'est ici. Voilà. Donc enfin, une façon intéressante, je trouve, d'utiliser... pourquoi pas Google Earth. Bon, alors après, bien entendu. Alors, on a aussi dans la région centre, j'avais trouvé ça très intéressant. Je vous y renvoie rapidement. Il y a des études qui ont été faites parce que là aussi, on cherche à implanter des éoliennes. Alors, en fait, ils ont repéré tout un tas de villages à 5, 10 kilomètres. Donc, ils ont implanté là où les éoliennes pourraient être. Je vais reculer un petit peu. Alors, c'est pareil, on décoche en fait. Hein. On décoche un certain nombre de couches. Donc en fait, ils ont implanté, vous voyez, les projets éoliens, et puis on a regardé où se situaient les habitations à proximité, à plus ou moins 2 km, je crois que c'est 2 km, 5 km, 10 km. Donc pour voir là aussi, d'un point de vue des habitations, quel peut être l'impact des projets. Alors on a en même temps les projets qui ont été retenus, les projets qui ont été refusés. Donc c'est intéressant aussi de voir, en fonction des populations et de l'implantation des populations, qu'encore une fois, quand on implante une éolienne, il y a tout un tas de facteurs à prendre en compte. Et puis après, on peut faire un petit tour du monde pour... pour se faire plaisir, c'est-à-dire aussi aller voir les grands parcs éoliens. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est quand on va regarder là où sont implantés ces grands parcs éoliens mondiaux, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est d'abord, on s'aperçoit que la plupart sont dans des endroits déserts et finalement très peu habités. C'est le cas, par exemple, des parcs de Palm Springs. Et puis en même temps que la plupart des parcs éoliens mondiaux sont dans les pays du Nord. Et finalement, on rentre dans la question, alors qui dépasse peut-être le programme de quatrième, en tout cas en géographie, mais qui me semble assez intéressante aussi à soulever, c'est que la question, c'est est-ce que l'énergie renouvelable, c'est pas une énergie pour les riches? Et sur la carte, en tout cas, et sur Google Earth, oui, parce que les parcs éoliens, vous en avez pas en Afrique, et vous en avez essentiellement, dans, et encore, si, enfin, vous en avez dans la région du Moyen-Orient, mais c'est en Israël, mais vous en avez pas, vous en avez au Japon, vous en avez en Australie, vous en avez en Europe occidentale, vous en avez aux États-Unis et au Canada, mais vous êtes bien sur votre fameuse ligne nord-sud. Et on peut poser aussi quand même la question que cette énergie, oui, mais c'est une énergie qui coûte cher, et c'est une énergie qui, en tout cas pour l'instant, est le fait de pays riches. Voilà, j'espère que j'ai pas dépassé le temps imparti.
Des questions à Pascal, peut-être, sur la présentation de son travail?
J'ai oublié de préciser alors, que le travail sera certainement en ligne, où il y aura un lien qui sera fait sur le site de l'INRP, mais qu'il est déjà en ligne sur le site EDD, que je vous invite à aller voir, d'ailleurs, sur le climat, notamment, de l'INRP. Il y a énormément de ressources. Donc je vous invite à aller voir sur ce site. Il y a d'autres travaux d'ailleurs proposés sur Google Earth pour d'autres énergies. Et donc il est déjà en ligne tel que vous l'avez vu. Voilà.
Voilà, il nous reste un petit peu de temps si vous voulez poser des questions. C'est le moment ou jamais.
C'est une question de Béotien. Dans Géolecture, est-ce qu'on peut créer des sites soi-même? Est-ce qu'il y a une interopérabilité avec des documents personnels?
Non, en fait, Géolecture, c'est un logiciel qui est fermé. C'est un visualiseur SIG. Alors, la seule chose quand même, enfin, que j'ai pas montré et qu'on peut faire dans Géolecture, c'est assez intéressant. Enfin, je pense par exemple au prof de géographie, c'est qu'on peut construire des croquis, d'accord? C'est-à-dire que l'élève peut, on a ici la possibilité, donc on a un outil de croquis. Et je trouve le gros intérêt, et c'est parfois l'intérêt de l'outil informatique, c'est qu'il y a une énorme contrainte pour l'élève, c'est que l'élève est d'abord obligé de construire sa légende. C'est-à-dire qu'on est d'abord obligé de penser toute la légende du croquis avant de pouvoir le réaliser. Donc on peut, nous aussi, si on le souhaite en tant qu'enseignant, réaliser un croquis qui va être à ce moment-là une couche supplémentaire. Donc on peut intégrer des informations personnelles, mais qui sont plutôt dans le cadre du croquis. Par contre, on va pas pouvoir rajouter des données extérieures, une autre carte topographique, une autre photographie aérienne. C'est pas possible. Ça reste bouclé. Et c'est bouclé en plus sur les quatre études de cas qui sont proposées. Voilà. Mais c'est vraiment de la visualisation géolecture. On est un peu dans le même principe que Google Earth finalement. Avec des données qui sont par contre déjà géoréférencées et où justement on n'a pas besoin de manipuler ou de trafiquer un peu soi-même le géoréférencement.
D'autres questions peut-être? Bon, ben, moi j'en ai une. Tu as lancé la perche vers les enseignants de physique. Tu disais que ça serait intéressant de travailler avec d'autres enseignants. Je pense que tu pouvais penser aussi au SVT parce que...
T'as mal écouté parce que j'ai dit physique et SVT.
J'ai pas l'écouté.
Je pensais d'ailleurs plus à la SVT qu'à la physique parce que il me semble que justement le travail qui est fait, qui est fait notamment la logique qui est faite dans l'implantation d'éoliennes où justement tout ce qui est avifaune, enfin tout ce qui est vraiment prise en compte justement de la biodiversité et notamment dans les cadres européens etc. Les plus à même pour en parler, c'est l'épreuve de SVT. Et à la limite, moi, ce qui m'intéresse dans le travail, c'est plus l'aménagement du territoire, enfin, ou d'un territoire dans une logique particulière, avec des enjeux d'acteurs, des logiques d'échelle, etc., qui sont plus proches du géographe. Et finalement, moi, c'est plutôt pour leur montrer les contraintes, plutôt que l'aspect biodiversité et la menace sur tel et tel type d'oiseau qui m'intéresse. Par contre, Effectivement, s'il y avait justement un regard croisé en même temps avec un prof de SVT sur cette question-là, je pense que ça serait d'autant plus riche pour les élèves que ça ne peut l'être que dans le cadre du cours de géographie où j'ai quand même un regard particulier lié à la discipline que j'enseigne. Voilà.
Non, je pense au début de ton intervention, t'as dit physique. L'enregistrement est là, on l'écoutera.
Ah non, mais j'ai dit SVT, et quand j'ai parlé du réchauffement climatique, j'ai parlé de la physique.
C'est une plaisanterie. Là, simplement, je voulais poser la question, justement, je crois que tu as déjà répondu, en fait, mais est-ce que tu l'as fait, en fait? Est-ce que tu as pu le faire avec d'autres enseignants? Et comment tu as pu le rendre possible?
Alors, je l'ai fait seul. C'est-à-dire, enfin, je l'ai pas fait. Moi, c'est une expérimentation que j'ai fait seul, puisque dans le cadre du projet avec l'INRP, il n'y avait pas d'expérimentation particulière en classe. Donc, je l'ai testé. Enfin, en tout cas, j'ai testé la séance avec des élèves. Alors, ce que je n'ai pas testé, c'est l'atlas des implantations, parce que l'atlas des implantations est sorti cette année. Donc, moi, ce que j'ai travaillé, en fait, essentiellement avec des cartes qu'ils avaient déjà fournies à l'époque, et c'est à partir en fait de ces cartes qu'ils ont décidé de faire un SIG. Mais ils avaient donc sorti l'atlas éolien. Je vous ai pas montré, bon, il y a l'atlas paysager qui permet par exemple aussi d'avoir des vues de 360 en quick time sur le littoral du Cap. Donc il y a tout, on peut compléter par d'autres cartes, mais les cartes étaient déjà créées et il y avait pas la possibilité de cocher les couches. Par contre, ce que je trouve, donc c'était très guidé en fait avec les élèves parce qu'on analysait simplement les cartes qui étaient produites. Ce que je trouve intéressant et de manière supplémentaire et que je pense qui est tout à fait faisable avec les élèves, et en cette année j'ai pas de quatrième donc je peux pas tester, mais ça me paraîtrait tout à fait pertinent avec l'atlas justement de les faire rentrer parce que ça permet cette dynamique là, la carte elle est pas faite, ils peuvent la faire. Et justement, ils peuvent choisir un certain nombre de données. Alors il y a tout un travail peut-être d'affaire de décryptage de la légende. C'est-à-dire, je pense qu'il faut leur donner un guide en leur expliquant ce que c'est qu'une zone Natura, ce que c'est qu'une zone d'intérêt floristique et faunistique, de type 1, de type 2, qu'est-ce qu'on entend par territoire artificialisé, etc. Il faut leur donner un petit glossaire. Mais à mon avis, ce qui est intéressant, c'est la possibilité de leur laisser des choix, parce que c'est ça le SIG. Enfin moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est la scénarisation, c'est-à-dire de les confronter à une situation problème et par l'intermédiaire de la cartographie, répondre à cette situation problème. Et c'est éventuellement, et là, ils ont une certaine liberté parce que la carte, elle est pas figée, c'est eux qui la construisent. Et je trouve que justement, le jeu d'acteur, que j'ai souvent pratiqué dans l'aménagement du territoire, peut tout à fait fonctionner dans ce cadre-là.
Oui, moi, je répondrai qu'en tant que prof de SVT, il faut trouver des créneaux. Alors, actuellement, dans les programmes, si j'ai bonne mémoire, il y a un petit créneau sur la biodiversité en sixième, mais là, c'est peut-être trop tôt pour les historiens géographes. Il y a un créneau sur la responsabilité de l'homme en troisième. Et puis, il y a le fameux tablim de seconde. Et il y a une incitation très forte à faire de l'EDD en dehors ou à l'intérieur de programmes. Mais c'est assez difficile, par exemple, en première S, où ce serait intéressant. En seconde, on pourrait travailler avec les géographes qui ont les espaces littoraux. Hein. Mais je le fais personnellement. Dans le cadre du thème libre, dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire qui s'appelle Estuaire. Mais pour le moment, je pense qu'il faudrait des créneaux plus ouverts pour arriver à ça. C'est-à-dire que, par exemple, tu parlais de direction, enfin de couloir migratoire. Ça rentre pas actuellement dans nos préoccupations de programme.
Non, mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Enfin, c'est pas moi d'en décider. Il y a une institution qui peut parler. Je laisserai Madame Lefrado le soin de répondre. Mais non, ce que je pense quand même, enfin, de ce que j'ai vu aussi de la recherche qu'on a menée, enfin, l'INRP, il n'y a pas encore de conclusion, etc. Mais si je m'en tiens là, je fais pas d'éolien dans mon cours de géographie. Et je fais pas de, enfin, je vois si je m'en tiens au programme et au strict intitulé de mon programme, je vais avoir du mal à en dévier. Et je pense qu'au contraire, c'est peut-être que c'est pas forcément des temps supplémentaires, c'est d'autres entrées possibles dans une notion, et que c'est peut-être par cette entrée-là, même si de temps en temps, ça va déroger quelque peu à la ligne directrice de mon programme, mais en même temps, j'engage une autre dynamique, éventuellement une autre réflexion avec les élèves.
Tout à fait d'accord, c'est pour ça que personnellement, je fais un projet avec prof de français, d'histoire-géographie, de physique éventuellement. Mais effectivement, ça nous impose de dégager du temps quand même. Il faut le dégager. Hein, du temps élève pour produire des documents spécifiques et du temps prof pour coordonner la chose.
Officiel.
Oui, juste quelques informations un petit peu pour répondre à vos préoccupations. Actuellement, au collège, effectivement, nous sommes sur des programmes de 95. Et qui sont tout à refaire. Oui,
Voilà. Donc, effectivement, en ce moment, les possibilités de convergence, etc., bon, faut pas les chercher. Et nous encourageons vivement nos professeurs d'histoire-géographie présents dans la salle à interpréter les programmes à la lumière des évolutions. Bon, et à coopérer avec leurs collègues sur ces domaines. Mais nous sommes en train de réécrire ces programmes. Le programme de 6e devrait sortir pour la rentrée 2008. Voilà. Et nous sommes très, très attentifs dans cette réécriture aux possibilités de convergence avec les autres disciplines, en particulier la SVT, la physique, etc. Donc sur le collège, bon, sur la seconde, il y a quand même un certain nombre de possibilités. Bon, je ne m'étendrai pas sur la première et la terminale où beaucoup de choses se sont passées un peu en dehors de notre volonté. Voilà. Mais en tout cas, le message est très entendu.
Donc il semble que les portes soient grandes ouvertes. Voilà, bon, on en discutera après, mais je te posais la question parce qu'on était sur un projet actuellement de modélisation et simulation du côté de l'effet de serre, et il nous manquait cette dimension humaine qu'apporte la géographie, et ça donnerait un prolongement intéressant à notre travail. Voilà, bon, merci à tous pour cet atelier. On va donc se retrouver dans une demi-heure en plénière, où j'essaierai de faire un point sur ce qui a été dit dans cet atelier, un point très synthétique, puisque j'aurai 5-10 minutes maximum. Je vous demanderai d'intervenir éventuellement pour ajouter votre grain de sel en fonction de la manière dont vous avez perçu les choses cet après-midi et ce matin. Merci, à tout à l'heure.